Et chapitre 13, étude de notaire. Les appartements sont vastes rues vieilles du temple. C'était une grande pièce, haute d'étage et tapissée de verre sombre. On y respirait une véhémente odeur de papier enfermé. Entre toutes les méchantes odeurs, celle-là est la plus haïssable. Il y avait trois tables, disposées régulièrement et tenant presque toute la longueur de la pièce. Chacune de ces tables portait à son centre un double casier, ce qui faisait six bureaux alignés. Une seconde chambre plus petite montrait par sa porte ouverte un septième bureau. Toutes les tables étaient occupées, excepté l'un des bureaux de celle qui touchait à la porte d'entrée de la grande chambre. Nous avons pu voir des études de notaires qui étaient des salons ou des cabinets ministériels. Les choses marchent, mais nous sommes ici au Marais en 1835. Sur la porte ouverte de la seconde chambre, on lisait au milieu d'une plaque de cuivre « Maître Clerc ». Sur une autre porte située à l'autre bout de la principale chambre et qui était fermée, on lisait « Cabinet ». Dans ce dernier sanctuaire respirait habituellement maître Hébert de l'Étang des Bois, Marie-Pierre, successeur de maître Souef Isidore, trésorier de la chambre, sous-lieutenant dans l'artillerie de la garde nationale et membre de plusieurs sociétés chantantes. C'était un homme important, bien posé, ayant des opinions politiques et doué d'un grand estomac. Monsieur Souef, Constance, neveu du précédent titulaire et premier clerc, était un jeune homme d'avenir, portant lunettes et garde-vue vert. Il avait des fausses manches en lustrine jaune qui lui allaient bien et louchaient des deux yeux. Le second clerc, Mahoudeau, frisait la quarantaine. Il avait du ventre et une figure à pipe, fausses manches vertes, avenir nul. Le troisième clerc, Dieu la foi, suivait les modes de l'an passé avec orgueil. Il se pommadait et séparait ses cheveux sur le front. De bien venir, non garanti. Trois autres clercs dont l'histoire ingrate n'a point gardé les noms, tous ornés de fausses manches et dont les appointements réunis n'auraient pas nourri un cheval sobre, complétaient les cadres de cette pacifique armée, où un seul grade restait inoccupé, celui de petit clerc ou saute-ruisseau, dont la place restait vide auprès de la porte. Il était 11 heures du matin. L'étude déjeunait, moitié aux frais du patron qui fournissait du bon pain et du mauvais vin, moitié aux frais des divers employés qui contenaient leur appétit selon leurs ressources. Souef, Constance, avait une fine côtelette. Mahoudeau dévorait du veau froid apporté dans son foulard. Dieu la foi broutait de la charcuterie. Les autres se réduisaient aux gruyères. « Quel âge a-t-elle bien, cette blonde-là » demanda le premier clerc du fond de son réduit. « répondit Mahoudeau, « l'âge des grâces, plus une fraction. »« Et jolie ?» interrogea Dieu la foi. « Oh, pas tant que les lithographies de Grévenon, mais assez pour que la patronne mette le feu à la maison, si elle la rencontre dans le petit escalier du patron. » « Quand je serai en titre, » dit Souef, « le petit escalier sera essentiellement privatif. » « Est-ce que ce monsieur Labre a dit qu'il viendrait ?»« Entre 11 heures et midi, oui, » répliqua Mahoudeau. « C'est drôle, » fit observer le premier clerc, « qu'il est attendu 4 mois pour donner signe de vie. »« Cinquième, voulez-vous me faire l'amitié de porter cela au numéro 14 ?»« Sainte-Croix de la Bretonnerie, magasin de mode, » ajouta Mahoudeau. « A-t-on dépassé les préliminaires ?» Souef, Constance, ne daigna pas répondre. Il dit seulement au cinquième, en lui donnant une assez jolie lettre qui sentait bon. « J'espère que nous aurons bientôt un petit clerc qui nous évitera les courses. » Le cinquième répliqua d'un ton aigre-doux. « Je l'espère aussi, monsieur Souef. » Quand il fut parti, Souef murmura. « En voilà un qui ne pourrira pas à l'étude. Il raisonne. »« Ah, il est venu un petit clerc ce matin, » dit Mahoudeau. Comment fait? Affreux et coiffé de chien-dent, comme Dieu la foi, sans pommade. C'est tout au plus si vous êtes agréable, monsieur Mahoudeau, dit Dieu la foi, le troisième. Quel nom? Demanda encore Souef Constance. Clampin. Beau nom de saute-ruisseau. Il reviendra. À notre besogne, messieurs, s'il vous plaît. J'entends le patron dans son cabinet. » Presque au même instant, la porte du cabinet s'ouvrit, donnant passage à un homme rubicon, rond, propre jusqu'à être luisant et portant la cravate blanche d'uniforme avec conviction. Et dire que ce gros poupard-là a trouvé 200 000 francs de femme pour payer son étude, grommela à souhait Constance. « Serviteur, patron, rien de nouveau ?»« À l'horizon politique, des points noirs, » répondit le notaire, en titre, d'une voix d'orateur. « Au sein de la nature, le printemps et les fleurs. » Sans compter les navets, pensa Mahoudo. « T'es trop bête, ça dépasse la moyenne, ô mon âme. » Le patron traversa l'étude d'un pas grave et presque majestueux. Il entra chez le maître clerc et ferma la porte. « Affaire privée, dit Dieu la foi, on va parler de la blonde à fond. » « Mon cher monsieur Souef, dit monsieur Hébert de l'Étang-du-Bois, très amicalement, il me faudrait aujourd'hui ou demain 100 000 louis pour le dehors, des choses tout à fait imprévues, mais avouables au premier chef, vous connaissez mes mœurs. » Et sans attendre la réponse, il ajouta, « J'ai peur que nous ayons une méchante histoire. Cette affaire labre me trotte dans la tête. » « Il est venu, dit Souef Constance. « Comment qui, je croyais, être le seul à l'avoir vu ?» s'écria M. Hébert étonné. « Le nommé Paul Labre. « Ah, Paul, c'est Jean que j'ai reçu, moi. À quelle heure est-il venu ?»« 10 heures, 10 heures et demie. Il doit revenir entre 11 heures et midi. » Le patron était tout pensif. « Il faudra prévenir le commissaire de police, murmura-t-il enfin. L'homme que j'ai vu m'a fait l'effet, mais là j'en ai encore la migraine. Et c'est si étonnant, mon cher monsieur Souef, qu'après 4 mois de silence, on entende parler d'eux le même jour et séparément. » Il posa sur la table, sans affectation, une très belle tabatière d'or auprès de la boîte de buis dont Constance Souef se servait malgré son jeune âge. Constance recula sa boîte et repartit sèchement. « On a vu des choses comme cela. Tous les héritiers des successions ouvertes à l'étude ne sont pas forcés d'avoir le don de vous plaire, monsieur Hébert. » Le patron ne se fâcha pas et chantonna rondement. « Moi, j'aime les bons enfants, les bons vivants, bien mangeant, bien buvant la farine d'ondaine. Et j'entends la farine d'ondon quand viendra mon temps qu'on mette sur ma bière, ma bouteille et mon verre avec un gras chapon, la farine d'ondon. » Mahoudo frappa à la porte et dit sans ouvrir, « C'est le gamin qui vient pour être saute-ruisseau. » Trop tard, répondit le patron. La place est donnée depuis ce matin à un protégé, madame la duchesse. As-tu entendu? Demanda Mahoudo à notre ami Pistolet, qui restait debout près de la porte d'entrée. Pistolet avait fait un bout de toilette, et son bain nocturne n'était pas sans avoir un peu nettoyé ses habits. J'entends que je n'ai pas de chance, répondit-il avec un gros soupir. J'avais idée de me ranger, mais il paraît que c'est difficile à Paris. « On fait la connaissance d'une duchesse, insinua Dieu la foi, et on attrape ainsi une place de 30 francs, 15 francs de chaussures à défalquer. » Le Pistolet le salua sans rancune. « Enfin, dit-il, en prenant la porte, bien des remerciements. J'essaierai de me ranger tout de même. Serviteur, la compagnie. » Dans le bureau du maître clerc, M. Hébert reprit les derniers vers de son refrain et laissa ensuite échapper cet aveu. Le couplet ci-dessus est un peu de moi, mais j'en fais mystère, ne me vendez pas. Monsieur Paul Labre, cria Mahoudo à travers la porte. Très bien, répondit le notaire, faites entrer monsieur Paul Labre. Il ajouta confidentiellement, si celui-là ressemble à l'autre, je ne suis pas fâché d'avoir quelqu'un près de moi. Mais non, s'interrompit-il au moment où la porte s'ouvrit, celui-là ne ressemble pas du tout à l'autre. C'est même étonnant comme deux frères peuvent être si différents. Monsieur, prenez donc la peine de vous asseoir. C'est à monsieur Labre Paul que j'ai l'avantage de parler. Oui, monsieur, répondit le nouvel arrivant. Très bien, ne vous formalisez pas, monsieur, si je vous dis que vous avez montré peu d'empressement à vous occuper de l'affaire qui... « Je ne lis jamais les journaux, interrompit Paul, et je suis pressé. Veuillez me dire ce dont il s'agit. » « Monsieur Labre, prononça sentencieusement le patron, moi aussi je suis pressé, le notariat n'est pas une sinécure. Avez-vous vos papiers ?»« Je n'ai aucun papier, monsieur. »« Ah, monsieur, c'est fâcheux. » « Mais, reprit Paul, en cas de besoin, je puis vous les présenter avant une demi-heure. Très bien, alors, monsieur Labre, vous êtes venu chercher un simple renseignement. Mais en venant, je réponds à votre invitation. Très bien, très bien. Vous formaliseriez-vous, monsieur Labre, si je vous demandais quelle différence d'âge il y a entre vous et monsieur votre frère? 10 ans. Parfait. J'ai eu l'avantage de voir ce matin monsieur votre frère. Déjà, s'écria Paul. Le notaire et son maître clerc échangèrent un regard. Ce n'était pourtant pas trop tôt, dit Souef Constance. Dans ma bouche, répliqua Paul, ce mot déjà n'a pas la signification que vous lui donnez. Oh, s'empressa de dire le patron, ne vous reprenez pas, monsieur Labre, ce n'est pas ici un interrogatoire judiciaire. Paul releva sur lui un regard étonné. Je me hâte d'ajouter, poursuivit monsieur Hébert de l'étang des bois, que vous avez l'air d'un fort honnête jeune homme. Voilà, car il faut parler net, monsieur votre frère, que j'ai eu l'avantage de voir ce matin, a pour le moins 20 ans de plus que vous. Il n'est pas dans la même position que vous, il a ses papiers, tous ses papiers, parfaitement en règle. Je vous le répète, je ne suis pas un juge d'instruction, monsieur Labre, je crains les machines criminelles comme le feu. Si vous êtes un peu trop avancé, l'imprudence est de votre âge. Eh bien, retirez-vous purement et simplement, et ce sera comme si je ne vous ai pas vu, vous comprenez ? Au lieu d'obéir à cette insinuation, où en définitive il y avait quelque apparence charitable, Paul se laissa tomber sur une chaise qui était auprès de lui. Ses jambes défaillaient, et il appuya ses deux mains contre sa poitrine. Monsieur Hébert, qui se méprit, voulut dire « N'ayez pas peur !» Paul l'interrompit d'un geste nerveux et murmura « J'ai peur, j'ai horriblement peur. J'attends mon frère depuis hier au soir. Répondez-moi, mon frère est grand, beau, bien fait, brun. Comment est l'autre ?»«
Blond, tirant sur le roux, répondit le notaire. Petit, gros, laid, il faut dire la vérité, l'air d'un coquin depuis les pieds jusqu'à la tête. »
Paul se dressa sur ses jambes chancelantes. « Si cet homme-là a les papiers de mon frère, dit-il d'une voix rauque, c'est que mon frère a été assassiné. »
« Ou volé, monsieur Labre, ou volé, rectifia le notaire. Je vous prie d'être persuadé que je prends bien part à votre situation douloureuse. »
Paul recouvrait déjà son calme. Il demanda « L'homme qui s'est adressé à vous a-t-il laissé son adresse ?»«
Naturellement, répliqua le patron qui feuilla son carnet. « Monsieur Jean Labre, baron d'Arcis, rue Pont de Lodi 3. »
Paul se dirigea vers la porte.
« Du sang-froid, monsieur Labre, lui dit le notaire en le suivant. Quand vous aurez vos papiers bien en règle, j'aurai l'avantage de vous communiquer le testament de madame veuve de Grandlieu, née Labre, décédée sans enfant à Mortefontaine, canton de La Ferté-Massé, dans l'Orne, et qui vous laisse indivis entre monsieur votre frère et vous 12 bonnes 1000 livres de terre en rente, plus 17 000 francs d'argent comptant. Le mobilier n'est pas mauvais, et la succession n'a pas un sou de dette. C'est gentil. »
Paul n'écoutait plus. Le notaire ajouta en se penchant sur la rampe d'escalier,
« Pour l'affaire criminelle, si vous vous portez partie civile, comme je le pense, j'ai mon beau-frère, monsieur Bellamy, avoué, rue Saint-Honoré 212. Vous serez content de lui. J'ai l'avantage de vous saluer, monsieur Labre. Vous direz à Bellamy que c'est moi. »
Paul s'élança dans la voiture et se fit conduire au numéro 3 de la rue du Pont de Lodi. C'était une maison en reconstruction où il n'y avait pas un seul locataire. « À la poste, ordonna-t-il à son cocher. » Il avait sur lui 4 ou 5 louis et sa montre, tout ce qu'il possédait. Une demi-heure après, et sans même avoir pris le temps de revenir à la maison, il galopait sur la route du Havre.